Voilà, ouvrez vos Bibles à Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, un message que j'ai intitulé tout simplement « Quatre paraboles sur le royaume ». Quatre paraboles sur le royaume. Nous allons réviser très brièvement la parabole du semeur, ensuite regarder ensemble la parabole de la lampe, la parabole de la semence et la parabole du grain de sénévé. Alors avant de lire ces textes, juste peut-être quelques mots d'introduction. Marc chapitre 4, comme vous le savez, marque un tournant significatif dans le ministère de Jésus. Les Juifs viennent de rejeter Jésus en concluant, après tous les miracles qu'il avait faits, qu'il était issu de Satan, qu'il était satanique. Jésus prononce alors sur eux un jugement sévère comme quoi ils avaient commis, ou du moins qu'ils étaient proches de commettre, le péché impardonnable, le péché irrémissible. Et à partir de là, la tension entre Jésus et les leaders juifs augmente, menant quelque temps plus tard à son meurtre. Et donc, dans ce chapitre 4, Jésus va encourager ses disciples face à cette hostilité croissante et veut les encourager à ne pas perdre courage, justement. Et comment est-ce qu'il va le faire? Eh bien, il va le faire en leur expliquant la nature du royaume de Dieu. Et il va le faire en expliquant ou en donnant quatre paraboles. Quatre paraboles sur le royaume. La parabole du semeur, ça on l'a déjà vu. La parabole de la lampe, la parabole de la semence et la parabole du grain de sénévé. Alors, le mot parabole, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, vient de deux mots grecs, balo qui veut dire lancer ou mettre à côté, et du préfixe para qui veut dire à côté de. L'idée donc est de mettre quelque chose à côté de quelque chose d'autre pour faire une comparaison. C'est l'art d'utiliser un exemple de tous les jours pour illustrer une vérité spirituelle. Et quelle vérité est-ce que Jésus veut illustrer par ces paraboles? Eh bien, dans le verset 11a, il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Au verset 26 du chapitre 4 de Marc, il dit encore: il en est du royaume de Dieu comme. Donc il fait une comparaison. Et encore au verset 30, il dit encore: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Donc on voit très bien que Jésus veut illustrer la nature du royaume de Dieu en le faisant par quelques illustrations simples. Et ce royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le règne de Dieu aujourd'hui, celui que nous visons, que nous vivons actuellement, puisque nous sommes en Christ, ce que nous appelons aussi l'ère de l'Église. Donc ces quatre paraboles ont comme but d'encourager, et on va le voir, l'évangélisation. C'est vraiment ce qu'il veut montrer, vous allez voir dans deux secondes, de manière assidue et patiente, sachant que le résultat final de ce travail viendra à l'heure de la moisson par le Seigneur lui-même et en son temps. Alors, faisons déjà une révision de la première parabole, celle du semeur. La parabole du semeur, les versets 1 à 20, on ne va pas relire. Nous avons examiné la dernière fois cette parabole. Et cette parabole a tout simplement le but d'expliquer aux disciples que malgré un semage massif de la parole de Dieu, hein, c'était l'histoire d'un homme qui sème des grains dans un champ avec des terrains différents, des endroits dans ce champ différents. Et on a vu que malgré un semage massif de la parole de Dieu, cette annonce assidue de la bonne nouvelle de l'Évangile, que 3 cœurs sur 4 rejetteraient l'Évangile, car leur cœur n'était pas prêt à recevoir cette semence. Mais, en utilisant encore cette parabole, il dit à ses disciples: ne vous découragez donc pas de faire le travail du semeur et semer la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que nous ne savons pas qui parmi les auditeurs ont le cœur dur. Moi, je ne sais pas qui a un cœur dur. Un cœur pierreux. Non plus, on ne sait pas qui a le cœur pierreux. On ne sait pas non plus qui a le cœur plein d'épines. Et on ne sait pas non plus qui reçoit la semence dans un cœur labouré et prêt à recevoir la semence. Donc il dit, le travail du semeur, ce n'est pas de voir qui va recevoir comment la semence, c'est simplement le job de semer la semence abondamment, sachant qu'elle tombera occasionnellement sur un cœur labouré et réceptif, et un cœur qui produira ainsi du fruit. Donc ça, on l'avait déjà vu, c'est un résumé. Deuxième parabole sur le royaume que Jésus évoque, elle est ici, chapitre 4, à partir du verset 21. Je vais lire. La parabole de la lampe. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donne à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors la parabole de la lampe est un exposé par une série de ditons proverbiables que Jésus utilise à d'autres moments et dans d'autres contextes. Regardez le verset 21. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Donc la petite phrase « il dit encore » montre que ce qu'il va dire maintenant est lié avec ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire avec la parabole du semeur. Il parle au même groupe de disciples, le verset 10 nous le dit, « lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles ». Donc il est avec ses disciples, le groupe élargi de disciples, et il continue son enseignement sur la nature du royaume. Alors Jésus prend l'exemple d'une lampe. Alors la lampe dont parle Jésus est très commune à l'époque. Un petit vaisseau en terre cuite avec une mèche au bout trempée dans l'huile à l'intérieur du vaisseau qu'on allumait. Là j'ai une image pour vous montrer. Ça c'est la lampe dont parlait Jésus. C'était simplement une petite lampe à l'huile. Alors il dit tout simplement, est-ce qu'on prend une lampe comme ceci allumée bien sûr pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? Un boisseau était un récipient cylindrique employé comme mesure. Donc l'idée est toute simple, il dit, on n'allume pas une lampe à l'huile pour ensuite la mettre sous un récipient pour l'enfermer. Ce serait un non-sens. Alors je voulais moderniser un petit peu cette illustration. Ce serait comme de dire aujourd'hui, vous n'allez pas prendre une lampe de poche, l'allumer, la placer sous une casserole et l'enfermer. Ce serait complètement insensé et stupide de faire ça. Une lampe de poche ne sert pas à ça. Verset 21, il dit, ou bien on ne prendrait pas cette lampe et on la mettrait pas sous un lit. Alors le lit dont il est question était ou bien un lit typique à l'époque qui était rien d'autre qu'un matelas posé sur le sol pour dormir et qu'on enroulait la journée, ou bien ce qu'on appelle un triclinium romain. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était un triclinium romain, alors je vous en montre un. Tac. C'est un triclinium romain. D'accord? Une sorte de lit-chaise. Utilisé dans les maisons un peu plus aisées. Un peu surélevé sur quatre pieds. Donc Jésus est tout simple. Il dit, on ne va pas prendre une lampe à huile et la mettre sous un triclinium. Encore pire, on ne le mettrait pas sous un matelas. Non, ce serait un non-sens. Ce n'est pas le but d'une lampe. On ne l'utilise pas pour faire ça. Elle n'a pas été créée pour cela. Aujourd'hui, on dirait, tu ne vas pas prendre ta lampe de poche, l'allumer, la jeter sous ton lit, fermer la porte et retourner à la cuisine. Ce serait ridicule. Non, alors qu'est-ce qu'on fait avec? Il le dit, regardez au verset 21. N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Ben oui, la logique est sans faille. Le but d'une lampe n'est pas de la cacher, non. Le but des lampes, c'est qu'elles soient justement placées à des endroits stratégiques, sur un chandelier, élevées, pour éclairer toute la pièce. Ça, c'est le but d'une lampe. Verset 22. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Donc le petit mot « car » de nouveau montre qu'il y a un lien étroit avec ce qui vient d'être dit, les versets 22 et verset 21. Il va maintenant quelque part décrire et expliquer la parabole. Jésus souligne une évidence, une sorte de loi sous-jacente. Lorsque les choses sont cachées, lorsqu'on cache une chose, l'intention c'est qu'un jour elle soit révélée et mise à jour. Si tu caches un trésor, c'est pour un jour aller rechercher ce trésor et le ramener au plein jour. Ok, mais de quoi parle Jésus ici? Eh bien, le verset 26 nous dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu. Donc il décrit quelque chose, un aspect ici du royaume de Dieu. Apparemment, ce qu'il est en train de dire, c'est que la parole du royaume ou la bonne nouvelle du royaume, on avait vu ça, c'était le but de la semence dans la parabole du semeur, l'enseignement de Jésus et l'évangile annoncé, même si elle fut tristement rejetée par la plupart, 3 sur 4, sera dorénavant propagée ouvertement au monde entier. Voilà ce qu'il essaie de dire ici, ou ce qu'il dit. Marc 16, 15, juste avant de les quitter, il leur dit ceci, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Dans Matthieu 28, il l'a dit comme ceci. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi au Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il dit, voilà, rien n'arrêtera cette bonne nouvelle d'éclater au grand jour, d'éclairer un monde obscur. Le jour J est arrivé, disciples, pour cette propagation universelle de l'évangile. Et au verset 23, le regard tourne très brièvement vers l'auditeur. Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus dit ceci, écoutez bien ce que je dis. Entendez-moi bien, ce que je viens de dire est vraiment vrai. L'évangile n'est pas ésotérique, l'évangile n'est pas caché, l'évangile n'est pas secret. Non, il va être propagé par le semeur et placé sur un chandelier de manière claire et forte et universelle. Ceci est important et ceci est encourageant. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Même lorsque les disciples verraient Jésus être assassiné, ils savaient que rien n'allait arrêter l'avancée de l'évangile au travers d'eux. La mort de Jésus ne marquerait pas l'arrêt, mais le début de la propagation de l'évangile. Verset 24, prenez garde à ce que vous entendez. Il appelle les gens qui entendent cet évangile à avoir une perception spirituelle des choses, à avoir du discernement. Une écoute superficielle devrait être évitée. Les trois premiers terrains ont écouté, mais de manière superficielle. Ce n'étaient pas des vrais disciples. Il faut entendre, il faut réfléchir, il faut comprendre. Et il dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. C'est intéressant ce qu'il dit ici. Jésus souligne l'importance de faire un effort particulier dans l'écoute de la vérité. La mesure de leur effort assidu est directement liée aux bénéfices qu'ils en tireront. Plus tu cherches à comprendre, plus les avantages seront évidents. En fait, ce qu'il est en train de dire, ne sois pas un paresseux spirituel. Réfléchis, creuse, sonde, médite. Les avantages seront énormes. Et au verset 25, « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » De nouveau, ça c'est une merveilleuse, c'est une drôle de verset, hein. Une merveilleuse promesse pour le croyant. Dieu te bénira, toi qui as compris et qui crois et qui reçoit l'évangile, qui reçoit Christ comme sauveur et Seigneur, Dieu te bénira au-delà de ce que tu peux imaginer. Il sera béni de manière disproportionnée à son effort d'écoute. Mais celui qui refuse d'écouter et de comprendre, non seulement perdra-t-il la grâce commune d'une vie sur terre, mais il perdra son âme le jour de sa mort. Alors je résume. Le semeur sème l'évangile. La lumière de l'évangile brille. L'évangile se répand dans le monde entier. Pour l'auditeur, lorsque cet évangile te parviendra à toi, entends, comprends, écoute, réfléchis et reçois-le. Donne ton péché à Christ et laisse Christ donner sa justice et là il te bénira au-delà de ce que tu peux même imaginer. Donc ça c'est la deuxième parabole. Regardons la troisième parabole. Regardez. La parabole de la semence. La parabole de la semence. Verset 26, il dit encore, « Il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Encore une parabole sur le royaume de Dieu. On avait dit, chaque parabole décrit un aspect du royaume de Dieu sur terre aujourd'hui. Et cette parabole veut représenter la croissance du royaume dans le monde, mais regardez comment, c'est vraiment très intéressant. Alors voici l'histoire. Quand un homme jette de la semence en terre, donc de nouveau on a le semeur, il a une semence dans son sac, il y a un terrain et il jette de la semence. Et cette semence tombe, dans ce cas-ci, sur la terre labourée, prêt à recevoir cette semence. Verset 27. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Ben c'est vrai. Je ne sais pas si vous êtes agriculteur ou si vous avez déjà semé pour faire pousser des fleurs ou quelque chose. Hein. Vous semez la semence, ou l'agriculteur sème la semence. Ensuite, il quitte le champ. Il va s'occuper d'autre chose. Il ne prend pas une chaise, il ne s'assied pas, il n'attend pas là en train de regarder pour se dire « Est-ce que ça va pousser ?» Non, il part. Il ne fait plus rien à ce moment-là pour aider la germination de cette semence. Il continue dans ses routines habituelles de la vie. Alors le besoin d'eau n'est pas mentionné ici. Il est simplement évident que de l'eau est une nécessité de base et donc pas mentionnée. L'attention est mise sur ce grain, sur cette semence. Une fois jeté dans le champ, plus rien n'est requis du semeur. La phrase, regardez, qui dit « qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour » souligne le fait que cet agriculteur, une fois qu'il a jeté sa semence dans le champ, n'y pense plus. Il n'y pense plus lorsqu'il dort, ni lorsqu'il est réveillé. Il n'y pense ni la nuit, ni le jour. Il attend tout simplement, parce qu'il sait très bien que le jour J viendra où la chose va pousser. Et c'est exactement ce que la suite du verset nous dit qu'il dorme ou qu'il veille, verset 27, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Alors c'est intéressant, le temps présent ici dans l'original montre que la germe croît constamment, qu'on y pense ou pas, ou qu'on ne le réalise ou pas. Je ne sais pas si vous avez déjà planté, moi je ne suis pas un très bon jardinier, mais est-ce que vous avez déjà planté une bulbe ou une semence et vous posez la question, tiens, je me demande si ça va marcher. Ben moi oui. Parce que je ne m'y connais pas trop. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on apprend ici, c'est que la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La germe atterrit, descend dans la terre, suce les nutriments et commence à croître d'elle-même. Elle prend de la longueur, elle grandit, mais de manière invisible. Tout se passe sous terre, donc tu y vois rien. C'est le but ici. La croissance se passe sous terre. L'agriculteur ne sait en fait pas comment elle fait pour grandir. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle grandit, mais il ne sait pas comment elle grandit. Et c'est exactement ce que la parabole veut souligner ici. C'est que la croissance de la semence est indépendante au travail du semeur. Et le semeur ne comprend même pas comment ça se passe. Il sait ce qui peut favoriser ou défavoriser la croissance, mais la croissance elle-même fait partie des mystères de la vie, qui est même encore de nos jours inexplicable. Alors verset 28, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Le semeur attend, puis il attend encore, et quelque temps plus tard, tout d'un coup, ding, il voit un petit brin d'herbe. Et je sais que nous, au printemps, dans notre petit jardin, quand on voit ces petites tiges vertes des primes verts ou des tulipes, bon, je ne suis pas très bon, d'accord, mais il y a ces petites tiges vertes qui commencent à pousser, puis, waouh, trop génial, ça marche! Il va y avoir des fleurs cette année! C'est ce qu'il dit. De manière invisible, tout a poussé, il y a eu beaucoup d'activité là-bas sous la terre, et tout d'un coup, ding, on voit le fruit. D'abord le brin d'herbe, puis un épi, puis la plante qui produit du fruit. Ce qu'on apprend ici, c'est que la croissance est produite par une puissance autogénérée et spontanée de l'intérieur de la semence qui opère indépendamment de l'agriculteur. Verset 29. Or, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille et la moisson est là. Voilà, l'agriculteur, il vit pour ça. Il vit pour le jour de la moisson. Ou il peut récolter le fruit de son labeur. Et donc, c'est ce qu'il fait. Alors, quel est le but de cette parabole ? Eh bien, cette parabole décrit un aspect du royaume de Dieu, en particulier sur comment le royaume de Dieu grandit. Seul et sans arrêt, en étapes. Le but de cette parabole est tout simple. Comme le semage est forcément suivi de la moisson, tel en est-il avec le royaume. La parole est semée et sa manifestation glorieuse un jour sera vue à l'œil nu. On sème, la semence pousse dans les cœurs réceptifs, l'Église ainsi grandit dans le monde, même si moi, individuellement, je ne vois pas beaucoup de croissance parfois. Je ne vois pas beaucoup de fruits parfois. Le travail se fait et le jour viendra où la moisson sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans Matthieu 24, peut-être on va commencer au 13, Matthieu 13. Vous connaissez la parabole de l'ivraie et du bon grain. Je vais lire la fin de cette parabole à partir du verset 36 de Matthieu 13. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on jette dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il dit, vous savez, nous sommes dans l'ère de l'Église. Nous, on sème, et on sème, et on sème. Et on ne sait pas trop où la semence atterrit, mais Dieu contrôle tout. Les cœurs réceptifs reçoivent la semence. Ils sont convertis en Jésus-Christ. Ils ont leurs péchés pardonnés. Et le jour viendra au retour de Christ où tout sera manifeste, tout sera clair. Même si dans mon petit coin, je n'ai pas tout vu comme j'aurais peut-être voulu voir. Voyez-vous, le royaume de Dieu grandira coûte que coûte. L'évangile produira le fruit voulu. On ne peut pas forcer la croissance. Dieu contrôle tout. Moi, ça m'a beaucoup encouragé, ceci, parce que ça fait maintenant presque 28 ans que nous travaillons en France. Moi, je suis missionnaire pasteur. On a travaillé à Paris pendant 10 ans. J'étais pasteur d'une église de 53 personnes qui, en 10 ans, a grandi à 83 personnes. On était super contents. Mais tu dis, waouh, 10 ans de boulot pour 30 personnes. C'est beaucoup de travail. Et c'est vrai que quand on regarde à son ministère individuel, on peut être un peu découragé. On peut dire, waouh, où est le fruit ? Seigneur, où est le fruit ? Ce qui est vraiment encourageant, mes amis, c'est que si on se retire un petit peu et on regarde statistiquement le pays de la France aujourd'hui, savez-vous que le nombre de chrétiens évangéliques a doublé en France depuis ces 28 ans? Donc si toi tu restes dans ton petit coin et tu regardes, tu dis, waouh, est-ce que vraiment j'ai un gros effet? Seul, peut-être pas, mais tous ensemble, lorsque nous travaillons tous ensemble, il y a un immense effet. Et c'est ça le but ici. Moi, mon rôle, c'est de semer. Peut-être que je sème, mais la semence tombe sur les cœurs durs et pierreux et épineux, et il n'y aura pas de fruits. Ben, ça, ce n'est pas mon problème, en fait. Parfois, il tombe sur du bon terrain et on voit le fruit. Et à la fin des temps, je verrai et Dieu me le révélera. John, merci. Je crois qu'il va me dire ça, j'espère. Merci pour ton rôle. Et il va te dire à toi, merci pour ton rôle, et merci pour ton rôle, et merci pour ton rôle, et merci pour ton rôle, parce que c'est tous ensemble, nous les semeurs, qui semons. Et Dieu recevra toute la gloire un jour. Soyons encore encouragés par la prochaine parabole. La parabole du grain de sénévé. Verset 30, regardez. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Encore un autre aspect du royaume de Dieu. Là, je pense qu'on va vraiment être encouragé, d'accord? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier il expliquait tout à ses disciples. Alors, la parabole du grain de sénévé, très intéressant. De nouveau, au verset 30, on voit qu'il décrit le royaume de Dieu. Alors c'est intéressant, la parabole est tellement simple que Jésus en donne même pas l'explication. De nouveau, un homme prend un grain de sénévé et il la plante. Et il attend. La plante grandit tellement qu'elle produit un arbre qui sert aux oiseaux comme refuge. Ça, c'est l'histoire. Alors, pourquoi cette histoire? Jésus décrit tout simplement à ses disciples la croissance prodigieuse de l'Église, de la parole du royaume et de son effet prodigieux dans le monde, malgré ses humbles commencements. En fait, c'est une parabole sur la croissance de l'Église. Écoutez. Premièrement, il dit, au verset 31, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'elle est semée à terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Alors le sénévé, c'est une graine de moutarde. En fait, il y a deux sortes de graines de moutarde. La moutarde blanche, ce qui est appelé en termes techniques le synapsis. On en découvre des choses dans la Bible, vous n'êtes pas d'accord? Il y a aussi la moutarde noire ou le sénévé, ce qu'on appelle le brassica. La moutarde se fabrique en broyant les graines de moutarde et en y ajoutant du vinaigre. Et le grain de sénévé dont parle Jésus est la variété qui se plante dans le jardin. Alors verset 32, Jésus dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Alors certains ont cité cette phrase comme preuve comme quoi les Écritures sont erronées, puisque nous savons aujourd'hui que le grain de sénévé n'est pas la plus petite des graines au monde. Mais s'il faut souligner que Jésus donnait un dicton de l'époque, car il parlait aussi à un auditoire local qui pensait à leur propre jardin et à leur propre champ. Et dans les jardins et les champs d'Israël à l'époque, le grain de sénévé était la plus petite des graines, selon Lenski. Nous savons qu'il existe dans le monde des semences plus petites que celles-ci, comme par exemple la semence d'orchidée sauvage. Mais les plantes connues et semées dans les jardins et les champs de Palestine à l'époque, c'était le grain de sénévé qui était la plus petite. Et le mot utilisé pour semence, au verset 32, décrit toujours une plante comestible. Et, nous dit John MacArthur, de toutes les plantes comestibles, le grain de sénévé est la plus petite, sauf une, le tabac. Mais le tabac est d'origine américaine et ne fut importé dans l'Ancien Monde qu'au XVIe siècle. Regardez verset 33. Verset 32. Il dit, mais lorsqu'elle a été semée, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter dans son ombre. Alors ce verset est intéressant parce qu'il décrit la croissance prodigieuse de cette graine. Elle pousse et devient un arbre tellement grand que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors j'étais regardé sur Google Images pour voir si c'est vrai. Et là, j'aimerais vous montrer un moutardier, regardez. Incroyable. Même aujourd'hui, la moutarde pousse vigoureusement en Palestine à des hauteurs de 3 ou 4 mètres ou encore plus grand. Et en automne, les branches de moutarde durcissent, elles servent de perchoir et de multiples genres d'oiseaux, elles servent même de parapluie et de parasoleil à ces mêmes oiseaux. Merci. Alors, quel est le but de cette parabole? Jésus dit tout simplement que le royaume des cieux ici sur terre commencerait tout petit, mais qu'il prendrait avec le temps des proportions énormes, pourvoyant un refuge et une protection pour le monde entier. Je vous donne un exemple de quelque chose qui commence tout petit, mais qui a des conséquences énormes. Prenons les notes de musique. Alors, je vais vous les donner, d'accord? Il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça fait combien de notes? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça fait 8, c'est juste? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ouais, on ne va pas compter le Do deux fois. Alors voilà, je compte bien 7. Il y a 7 notes de musique, est-ce qu'on est d'accord? Avec des petites variations parce qu'il y a le bémol et le dièse. D'accord. Écoutez, franchement, ce qui est incroyable, avec 7 notes de musique, imaginez toutes les chansons, qui ont été écrites avec cette note de musique. Des milliers, des centaines de milliers, des millions, c'est possible. Flavius, t'es l'expert. Oui? Non? Probablement. Incroyable! Cette petite note, des milliers, centaines de milliers, voire des millions de chants, c'est quand même incroyable. Alors prenons un autre exemple, l'alphabet. Alors je vais vous dire l'alphabet très vite, ça je sais faire. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Combien de lettres dans l'alphabet? Combien? 26. 26? Est-ce que tout le monde est d'accord? Combien de langues est-ce qu'il existe dans le monde juste pour ces lettres-là de l'alphabet? Moi, je prends le français et l'allemand. Vous avez à peu près les mêmes lettres? L'allemand, j'y comprends rien. C'est les mêmes lettres, mais ils mettent les lettres de manière différente et ça veut dire autre chose. C'est quand même incroyable. En anglais, pareil. En français, en italien, en portugais, en espagnol. C'est les mêmes lettres globalement. Et pourtant, on peut créer des langues et des langues et des langues. Et on me dit que dans le Petit Larousse, il y a 1851 pages avec 87 000 articles. Et ça, c'est que pour la langue française. Et dans le monde, il y a en 3500 et 4500 langues, bien sûr, avec des alphabets différents. Tout ce qu'on est en train de dire, mes amis, c'est qu'avec quelque chose de très petit, il y a des exemples de grandeur majestueuse de ce qu'on peut faire avec ces petites choses. Et par ici, dans notre parabole, le royaume de Dieu, c'est pareil. Tout a commencé par l'apparition du Fils de Dieu en forme d'un bébé. Né dans une étable, entouré de bœufs et d'ânes et de moutons, né dans une crèche, dans un mangeoir à bœuf, il est né dans un Galilée, il a grandi dans un village de Nazareth. Et quelle sorte de ville était Nazareth? Lorsque Nathanaël a appris que le soi-disant Fils de Dieu était de Nazareth, il a dit dans Jean 1, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Même les disciples étaient une bande d'hommes un peu particuliers. Aucun d'eux n'était issu de la haute société. Ils étaient pour la plupart des pêcheurs professionnels, des publicains, des zélotes. Il y en avait un qui était carrément terroriste. Ils étaient sans éducation, ils étaient craintifs, lents à comprendre. Jamais on n'aurait pu imaginer que ces 12 hommes allaient changer le monde. Jamais de la vie. Vous savez, nous on a un immense avantage par rapport aux disciples. Eux ils entendaient cette parabole, mais ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Nous on a 2000 ans en arrière qu'on peut regarder. 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, on peut dire qu'un tiers de la planète est sous la chrétienté. Ça ne veut pas dire que tout le monde est né de nouveau. Pas tous sont des authentiques chrétiens, mais nous voyons la progression continuelle du christianisme dans le monde. Cette parabole, donc, nous parle de la croissance visible du royaume dans le monde. Et ce qu'on apprend, c'est que la croissance de l'Église, mes amis, est une œuvre divine. Est une œuvre divine. Dans Matthieu 16, 18, vous connaissez ce verset. Jésus dit à Pierre, « Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Rien, même l'enfer, même Satan ne peut arrêter l'avancée de l'Église, mes amis. Personne et rien ne peut l'arrêter. La Bible nous dit, Matthieu 24, que Jésus va revenir. Oui, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Il reviendra. Il reviendra, mes amis. Rien ne peut arrêter ce mouvement. Quand est-ce que la fin va arriver? Matthieu 24, 14, écoutez. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Waouh! La motivation, mes amis, c'est que nous devons semer et semer et semer et annoncer l'évangile. Et j'ai envie de dire que plus on prêche, plus ça viendra plus tôt. Le retour de Jésus. Je ne sais pas si c'était en bon français, mais vous avez compris ce que j'essaie de dire. Plus nous annonçons l'évangile, plus nous précipitons le retour de Christ, parce que l'évangile doit être prêché dans le monde entier. Et ensuite, il reviendra. Et cette croissance continuera, et continuera, et continuera, et continuera jusqu'à la fin des temps et son retour. Et moi, ce que je trouve remarquable, et c'est ce que Jésus est en train d'utiliser ça pour ses disciples, j'ai un rôle. J'ai un rôle. Dieu veut que nous entrions dans ses projets. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure dans Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En fait, il va accomplir ses projets, n'est-ce pas? Alors la question, c'est est-ce qu'il va le faire avec moi ou sans moi? Ce serait quand même dommage de ne pas être dans ses projets, non? Je me dis, mais c'est quand même génial qu'il veut m'utiliser, moi, dans ses projets. Parfois, il dit, ouais, mais tu sais, John, je sais quoi, je sers à quoi, moi, j'ai pas tous les dons que les autres ont, et je sais pas quoi faire avec ma vie, tu sais, moi, je suis un peu déprimé, qu'est-ce que je peux faire? Ben, Dieu t'invite à rentrer dans ses projets. Vous dites, mais tu sais, moi, bon, prenons l'exemple. Tout ce que je sais faire, c'est d'enseigner à l'école du dimanche. Peut-être quelqu'un pourrait dire ça. Et encore, je ne sais pas si j'arriverai à enseigner un enfant. Écoutez. Écoutez bien ce que je vais dire. En 1858, un homme enseignait une classe d'école de dimanche dans une église dans la ville de Boston, aux États-Unis. Son nom était Monsieur Kimball. Et cette même année, en 1858, cet homme, Monsieur Kimball, a eu le privilège de mener un jeune cordonnier à donner sa vie à Christ. Son nom? Dwight L. Moody. Peut-être avez-vous entendu parler de l'Institut biblique de Moody, à Chicago. Moody est devenu pasteur évangéliste à Chicago et pendant une tournée en Angleterre en 1879, il a suscité un zèle d'évangélisation dans un jeune pasteur d'une petite église. Son nom était Frédéric Mayer. Frédéric Mayer est lui-même parti faire une tournée d'évangélisation aux États-Unis sur les campus universitaires. Et lui, pendant ses tournées, a eu le privilège d'amener à Christ un étudiant, Wilbur Chapman. Et Wilbur Chapman s'est engagé à servir le Seigneur dans le YMCA, une œuvre chrétienne à l'époque. Chapman a ensuite, lui, engagé un jeune ancien joueur de basketball pour faire du travail d'évangélisation. Son nom, Billy Sunday. Grand évangéliste aux États-Unis à l'époque. Billy Sunday, à son tour, a fait une tournée d'évangélisation en Caroline du Sud. Et lors de cette tournée, un groupe d'hommes d'affaires a été tellement touché par la venue de Sunday qu'ils ont organisé une autre campagne d'évangélisation amenant un certain Mordecai Ham en tant que prédicateur. Et lors d'une de ces soirées, un jeune homme a entendu l'évangile et a donné sa vie à Christ. Son nom était Billy Graham. Et vous connaissez la suite. Billy Graham est devenu un des plus grands évangélistes de tous les temps. Mes amis, tout ça à cause d'un homme, Monsieur Kimball, qui a été fidèle dans son ministère dans une classe d'école de dimanche à Boston dans l'année 1858. On a tous un rôle à jouer dans le royaume de Dieu, mes amis. Tous. L'année avant mon voyage en Inde, en 1976, là où j'ai rencontré le Seigneur, il y avait une jeune femme qui a joué un rôle décisif dans ma conversion. Elle s'appelait Linda. Elle était chrétienne, étudiante à l'université de Syracuse où je faisais mes études. Elle connaissait mon style de vie et certainement le désapprouvait, bien qu'elle ne me l'a jamais dit. C'est intéressant, au lieu de me juger, c'est ce qu'elle a fait. Elle a cherché un pont pour pouvoir dialoguer avec moi. Trouver un pont pour m'influencer en douce vers Jésus-Christ. Vous savez ce que c'était ce pont ? Le jazz. Moi, je joue le piano un peu, j'aime bien faire le boogie-woogie. Elle jouait la flûte. Super bien. Alors régulièrement, lorsque j'allais jouer dans le lobby, là où j'étais à l'université, elle descendait avec sa flûte, elle disait « Est-ce que je peux jouer avec toi ?» Ah, j'ai dit « Ouais, super !» Donc on jouait ensemble. Vous savez qu'elle ne m'a jamais en fait annoncé l'évangile. Pas une fois. Une fois, elle m'a invité d'aller dans son église, mais je lui ai dit « Oh, surtout pas, jamais j'irai dans une église. » C'était vraiment pas mon truc. Mais elle était d'une gentillesse, cette fille. Elle rayonnait un petit peu une sorte de visage angélique. C'était assez... C'était remarquable. Elle jouait super bien le jazz aussi. Et le jour où je suis parti en Inde, elle est venue dans ma chambre, elle a vu un petit Nouveau Testament sur mon bureau que j'avais reçu des Gédéons au début de l'année scolaire. Alors comme tout le monde, j'aimais les cadeaux. Tac, j'ai mis dans mon tiroir et j'ai pu rouvrir. Et le jour où je partais, je débarrassais tout, donc ce Nouveau Testament était sur mon bureau avec tous ces autres trucs que j'allais jeter. Elle est venue juste à ce moment-là, elle a pris le Nouveau Testament, elle a dit « John, est-ce que tu pourrais faire une chose pour moi ?» Elle a mis le Nouveau Testament dans ma poche, elle a dit « Prends le Nouveau Testament avec toi sur ton voyage, on ne sait jamais. » J'ai dit « Ok, pour toi je le ferai. » J'ai mis dans mon sac à dos et j'ai complètement oublié que j'avais ce petit Nouveau Testament. Et 5 mois plus tard, j'étais à New Delhi. Un missionnaire hollandais m'a conduit à Christ. Et à cet instant, parce que ce missionnaire m'a conduit à Christ, il est parti, je ne connaissais aucun chrétien en Inde. Je me suis rappelé, dans mon sac à dos, j'ai une Bible. À cause de Linda. Et je l'ai encore cette Bible. Et cette Bible, je l'ai lue. Hein. Oh là là. Peut-être qu'elle n'avait pas don d'évangélisation, Linda. Elle ne m'a jamais annoncé l'évangile. Mais elle jouait la flûte. Elle a cherché un pont. Et un jour, elle a semé avec un Nouveau Testament dans ma vie. Et je serai pour toujours reconnaissant à cette femme. On a tous un rôle à jouer, mes amis. Tous. Quelle est donc la leçon de ces 4 courtes paraboles ? Le royaume de Dieu, illustré par la parabole du semeur, demande qu'on sème la parole et qu'on annonce l'évangile. Première chose. Même si on n'est pas très bon, vous vous rappelez, j'ai raconté l'histoire de ce jeune garçon qui voulait copier son père. Son père, lui, il était bon, wow, il se met super pro. Le garçon, paf, paf, c'est pas grave. C'est pas comment on sème, c'est où tombe la semence qui compte. Si t'es pas bon, c'est pas grave. Fais du mieux que tu peux. 2. Le royaume de Dieu, illustré par la parabole de la lampe, brille comme une lampe. Il ne faut pas cacher le royaume de Dieu. Demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi un petit peu plus de courage de y aller, quoi. 3. Le royaume de Dieu, illustré par la parabole de la semence qui grandit sous terre. Ça, c'est tellement encourageant. Grandit même si nous ne la voyons pas grandir. Moi, je pense que pour nous, en Europe, c'est très important, cette parabole. Les églises sont petites, il y a peu de gens qui viennent à Christ. C'est pas grave. C'est pas grave. Le royaume continue de grandir. Même si on ne voit pas de fruits. C'est ce que j'ai fait moi cette semaine, parce qu'on a fait. Comme vous, on distribue des flyers. Vous dites, ouais, bon, c'est pas l'évangile, non, mais c'est un flyer qui invite quelqu'un à un concert où ils entendront l'évangile et ils feront connaissance de notre église par la pub et peut-être qu'un jour ils viendront et se convertiront, on n'en sait rien. Alors cette semaine, nous, on a fait des enveloppes pour tous nos voisins et on les a invités et on les a mis ça dans leur boîte aux lettres. Je me dis, ce serait super si on devenait. C'est pas grand-chose, hein. Mais ça pourrait être révolutionnaire pour quelqu'un. 4. Le royaume de Dieu, illustré par la parabole du grain de sénévé, grandit et grandit et grandit encore sans jamais s'arrêter d'un début minuscule et qui, dans le temps, englobera toute la planète. Alors, est-ce qu'on comprend maintenant pourquoi Jésus a donné cette parabole à ses disciples ? Ben oui, pour les encourager. Ses disciples allaient rentrer dans une période difficile. Ils allaient voir Jésus capturé, souffrir et tué. N'allait-il pas peut-être conclure que le christianisme était en fait un échec et que la mort de Jésus marquerait l'arrêt pur et simple du mouvement ? Non, répond Jésus, absolument pas. Dieu a un plan mondial. Le royaume de Dieu avancera et son effet sera de plus en plus visible. Rien ne changera à cela. Le jour de la moisson viendra. Ainsi, ne perds pas courage. Tu fais partie, toi individuellement, tu fais partie du plan colossal qui veut que le monde entier soit touché par l'évangile. Tu as spécifiquement un rôle dans ce plan. On a tous une part à jouer. Peut-être la seule part, c'est que quand quelqu'un te regardera, il verra que tu es différent, il dira, il y a différent chez toi. Tu es différent. Tu peux leur dire pourquoi. Moi, je suis encouragé. Je ne sais pas si vous êtes encouragé. Écoutez, on a... Je parlais avec mon épouse. Sa mère est dans une maison de retraite. Sa mère connaît le Seigneur. Et sa mère nous a dit l'autre jour, elle a l'impression que 80% dans cette maison de retraite, des personnes âgées, veulent mourir. Elle se plaigne, elle se dit, mais pff, je ne sers plus à rien. Pourquoi je suis là ? Pourquoi est-ce que je suis encore en vie ? Et ma belle-mère, elle invite tout le monde à venir au culte le dimanche matin. Et l'autre jour, elle nous a dit, le petit groupe a commencé à 8 ou 9 ou 10 personnes. Maintenant, je crois qu'elle a dit qu'ils étaient à 20, 25. Son rôle à elle, c'est d'inviter ces personnes et leur montrer, non, il y a un but à la vie. Elle va les amener pour qu'ils puissent entendre l'évangile, en espérant que ces gens vont connaître Christ et se dire « Waouh, je fais partie de quelque chose de global, mondial. J'ai un but. J'ai un but. D'œuvrer pour le Seigneur. » J'espère que tu ressens que toi, tu as un but. Et voilà, le concert, c'est un pont. C'est notre pont aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire. Peut-être, cette semaine, on pourrait relancer encore les invitations. Qui sait ?